Je ne veux pas manquer de rappeler aux fidèles catholiques les motivations qui naissent de leur foi. J'encourage les frères et sœurs des autres religions à faire de même, car nous savons que la foi authentique donne non seulement des forces au cœur humain, mais qu'elle transforme toute la vie, transfigure les objectifs personnels, éclaire la relation avec les autres et les liens avec toute la création. La Bible raconte que Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. À lui appartiennent la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est pourquoi il nous dit « La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient, et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. » Par conséquent, cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain doué d'intelligence respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde. D'autre part, l'ensemble de l'univers, avec ses relations multiples, révèle mieux l'inépuisable richesse de Dieu. Par conséquent, pour être sages, nous avons besoin de saisir la variété des choses dans leurs relations multiples. Sur ce chemin de sagesse, il n'est pas sans importance pour nous que nombre d'espèces disparaissent et que la crise climatique mette en danger la vie de tant d'êtres. Jésus pouvait inviter les autres à être attentifs à la beauté qu'il y a dans le monde parce qu'il était lui-même en contact permanent avec la nature et y prêtait une attention pleine d'affection et de stupéfaction. Quand il parcourait chaque recoin de sa terre, il s'arrêtait pour contempler la beauté semée par son Père, et il invitait ses disciples à reconnaître dans les choses un message divin. En même temps, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillés il a contemplés de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Si l'univers se déploie en Dieu, qui le remplit tout entier, il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. Le monde chante un amour infini. Comment ne pas en prendre soin? Dieu nous a unis à toutes ses créatures. Pourtant, le paradigme technocratique nous isole de ce qui nous entoure et nous trompe en nous faisant oublier que le monde entier est une zone de contact. La vision judéo-chrétienne du cosmos défend la valeur particulière et centrale de l'être humain au milieu du concert merveilleux de tous les êtres. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de reconnaître que seul un anthropocentrisme situé est possible. Autrement dit, reconnaître que la vie humaine est incompréhensible et insoutenable sans les autres créatures, parce que nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime, qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Cela n'est pas le produit de notre volonté. Cela a une autre origine qui est à la racine de notre être, car Dieu nous a unis si étroitement au monde qui nous entoure que la désertification du sol est comme une maladie pour chacun, et nous pouvons nous lamenter sur l'extinction d'une espèce comme si elle était une mutilation. Ainsi, nous mettons fin à l'idée d'un être humain autonome, tout-puissant et illimité, et nous repensons pour nous comprendre d'une manière plus humble et plus riche. J'invite chacun à accompagner ce chemin de réconciliation avec le monde qui nous accueille et à l'embellir de sa contribution, car cet engagement concerne la dignité personnelle et les grandes valeurs. Toutefois, il faut être sincère et reconnaître que les solutions les plus efficaces ne viendront pas seulement d'efforts individuels, mais avant tout des grandes décisions de politique nationale et internationale. Cependant, tout s'ajoute. Éviter l'augmentation d'un dixième de degré de la température mondiale peut déjà suffire à épargner des souffrances à de nombreuses personnes. Mais ce qui compte est une chose moins quantitative. Rappeler qu'il n'y a pas de changement durable sans changement culturel, sans maturation du mode de vie et des convictions des sociétés. Et il n'y a pas de changement culturel sans changement chez les personnes. L'effort des ménages pour polluer moins, réduire les déchets, consommer avec retenue, crée une nouvelle culture. Ce seul fait de modifier les habitudes personnelles, familiales et communautaires nourrit l'inquiétude face aux responsabilités non prises des secteurs politiques et l'indignation face au désintérêt des puissants. Nous remarquons donc que même si cela n'a pas immédiatement un effet quantitatif notable, cela aide à mettre en place de grands processus de transformation qui opèrent depuis les profondeurs de la société. Si nous considérons que les émissions par habitant aux États-Unis sont environ le double de celles d'un habitant de la Chine et environ 7 fois supérieures à la moyenne des pays les plus pauvres, Nous pouvons affirmer qu'un changement généralisé du mode de vie irresponsable du modèle occidental aurait un impact significatif à long terme. De la sorte, avec les décisions politiques indispensables, nous serions sur la voie de l'attention mutuelle. Louer Dieu est le nom de cette lettre, parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. Donné à Rome, Saint-Jean de Latran, le 4 octobre, fête de Saint-François d'Assise de l'année 2023, la 11e de mon pontificat, François.